RFJ Info.
Le journal présenté par Thomas Nagy.
Bonjour, les États-Unis sous le choc des émeutes survenues à Washington hier soir, des violences qui ont causé la mort de 4 personnes et fait de nombreux blessés. Ce matin, la presse américaine pointe du doigt la responsabilité du président sortant Donald Trump. Encore 6 audiences à suivre pour fraude électorale à Moutier. 3 condamnations ont été rendues l'an dernier par ordonnance pénale. Vous entendrez les détails de ces cas dans un instant. C'est un choc au sommet qui attend le HC Ajoie. Les Jaunes et Noirs accueillent Kloten ce soir à Porrentruy en Swiss League de hockey sur glace. Les hommes de Gary Sheahan devront s'imposer face aux leaders du classement s'ils entendent rester invaincus en 2021. Le ciel restera largement couvert aujourd'hui. Quelques éclaircies sont possibles localement cet après-midi. Des flocons sont attendus par endroits dans les franches montagnes. Au niveau des températures, il fera 0 degré en plaine et moins 3 sur les hauteurs. Invasion, siège, assaut du Capitole. La presse américaine se déchaîne au lendemain des événements qui ont secoué Washington. Des milliers de sympathisants du président Donald Trump se sont rassemblés dans la capitale, puis ont pénétré dans le Congrès, symbole de la démocratie des États-Unis. 4 personnes sont mortes dans le chaos. Les médias tirent aujourd'hui à boulet rouge sur le dirigeant républicain jugé responsable de cette journée de violence. Raphaël Chalvera, vous avez parcouru les grands titres américains.
C'est ainsi que Mussolini et Hitler ont commencé, ça ne faisait pas partie de l'histoire américaine. C'est sans doute le Daily News qui emploie les mots les plus forts pour commenter ce 6 janvier historique aux États-Unis. Enseigner cette journée d'infamie à nos enfants, enseigner pour qu'ils n'oublient jamais les profondeurs auxquelles une grande démocratie peut sombrer lorsqu'elle est trompée, divisée et dirigée par un agent narcissique du chaos. Enseignez-le pour qu'ils ressentent l'embarras profond, de sorte qu'ils ne laissent jamais cela se reproduire, écrit le journal new-yorkais. Et l'éditorialiste de rajouter au sujet de Donald Trump, honte à lui et honte à ses partisans qui brisent la loi, ils sont des destructeurs de la démocratie. Le Daily News écrit aussi que le président devrait être mis en accusation et démis de ses fonctions immédiatement. Dans une opinion, un autre journaliste dit « Bienvenue en Amérique, une dictature du tiers-monde ». Le journal a enfin salué l'intervention du président élu Joe Biden, qui a déclaré que les scènes de chaos au Capitole ne reflétaient pas la véritable Amérique et qu'elles ont été l'œuvre d'un petit nombre d'extrémistes dévoués à l'anarchie. C'est à ça que ressemble un président. Depuis 4 ans, nous avons oublié, conclut le Daily News.
Et d'autres grands journaux américains ont aussi réagi avec virulence, Raphaël.
Oui, à commencer par USA Today. Donald Trump et ses partisans tentent de brûler l'Amérique, mais ils ne gagneront pas, écrit le journal. Ce dont nous avons été témoins n'était rien de moins que le terrorisme intérieur orchestré par Trump qui continue de manipuler ses partisans mensonge après mensonge. Et pour évoquer les manifestants, le journal parle de voyous, de partisans délirants et d'armées pathétiques de Trump. C'est un danger clair et présent pour notre sécurité nationale. USA Today évoque aussi l'arrivée prochaine de Joe Biden au pouvoir. Il aura besoin de l'aide de tous les Américains, démocrates, républicains ou autres, qui aiment ce pays et qui sont consternés. Dans ses colonnes, le New York Times parle d'une tentative désespérée de renverser le processus démocratique et d'ajouter que tout cela n'est pas très surprenant. C'est l'aboutissement de plus de 5 ans de haine, de harcèlement violent et de théorisation du complot qui est passé du ventre d'Internet à la Maison-Blanche. Dangereux, méprisable et familier, note de son côté le Washington Post. Trump a incité et encouragé cette insurrection, c'est sa création. Le journal ajoute que la démocratie a saigné. Le Washington Post conclut « Les émeutiers veulent vivre dans un monde en colère, pollué, sans cœur, ne serait-ce que parce que cela signifie qu'ils peuvent se tenir victorieux au sommet du désordre misérable. » On termine avec le Wall Street Journal qui se demande comment le pays va réagir. Les électeurs de tous bords verront-ils maintenant le compromis et le consensus comme préférables à la poursuite de profondes divisions ou verront-ils les événements d'hier comme une preuve supplémentaire de leur distance par rapport à leurs compatriotes avec lesquels ils ne sont pas d'accord? L'avenir répondra.
Et ce matin, le Congrès a certifié l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche. Les objections émises par des élus républicains ont été rejetées. Le démocrate l'a bien emporté avec 306 grands électeurs contre 232 pour le président sortant. Donald Trump a admis dans la foulée que sa présidence touchait à sa fin et a promis une transition ordonnée. Il a toutefois rappelé être en complet désaccord avec le résultat de l'élection. Cela représente la fin de l'un des meilleurs premiers mandats présidentiels et ce n'est que le début de notre combat pour rendre sa grandeur à l'Amérique, a-t-il déclaré. Un troisième vaccin anti-coronavirus en développement. Bayer a annoncé ce matin son soutien au laboratoire pharmaceutique allemand CureVac. Les deux entreprises vont collaborer pour rapidement produire et commercialiser un nouveau sérum contre le Covid-19. Celui-ci est actuellement en dernière phase d'essai clinique. Selon le PDG de CureVac, il serait plus facile à stocker que ses pendants chez Pfizer et Moderna. Il serait ainsi capable de rester stable pendant au moins 3 mois à la température d'un réfrigérateur. L'Europe doit en faire plus face à une situation sanitaire alarmante. C'est l'appel lancé par l'OMS aujourd'hui. Inquiet face à l'arrivée de la nouvelle variante du coronavirus d'Angleterre plus contagieuse, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé demande d'intensifier les mesures de base en vigueur pour diminuer les transmissions. La Suisse a enregistré jusqu'ici 46 cas de ce nouveau variant selon l'OFSP. Les audiences pour d'éventuelles fraudes électorales se poursuivent à Moutiers à moins de trois mois, du nouveau vote sur l'appartenance cantonale de la ville. Sur les 6 au programme, les 2 premières ont abouti à des non-lieux. La 3e devait se dérouler ce matin. Elle a à nouveau été reportée en raison d'un cas de Covid-19. Mais au-delà de ces procès, 3 condamnations ont déjà été rendues l'été dernier par ordonnance pénale. Olivier Zano a pu consulter les documents.
Le ministère public du Jura bernois a accepté de présenter les 3 ordonnances. Elles concernent une personne seule et un couple. Le tout est évidemment caviardé. On n'en sait donc pas plus sur la nature de ces actes. Tout ce que l'on peut lire dans la conclusion du procureur, c'est que ces citoyens illégaux n'avaient ni leur domicile civil ni leur domicile politique à Moutiers, que le déplacement de leurs papiers était donc au moins partiellement motivé par la volonté de participer au scrutin du 18 juin 2017. Par conséquent, les fraudeurs, dont on ne connaît d'ailleurs pas l'orientation politique, n'avaient simplement pas le droit de voter. Élément intéressant, les sanctions ont également été rendues publiques. Elles ont été fixées à 80 jours amende par le procureur, 70 avec un sursis de 2 ans, 10 transformés en amende additionnelle, histoire de punir tout de même concrètement la fraude électorale et d'obtenir un effet dissuasif. Le montant du jour amende est fixé en fonction du revenu et l'addition peut être salée. À titre d'exemple, le contrevenant le plus touché doit s'acquitter d'une amende additionnelle de 4 300 francs, frais de procédure compris. S'il récidive, plus de 13 000 francs pourraient s'ajouter.
Et on le rappelle, le registre électoral de la ville de Moutiers est bouclé depuis la fin décembre, 3 mois avant le vote du 28 mars. Toute nouvelle arrivée ne sera donc pas comptabilisée. Seule variation possible jusqu'au scrutin, les décès ainsi que les jeunes qui obtiendront leur majorité. Entre réouverture et fermeture, les portes des restaurants ont eu droit à une valse sans fin en 2020. Leurs patrons ou gérants ont souffert de la situation ces derniers mois. Surtout, tenus de fermer, les restaurants ont souffert économiquement, mais aussi psychologiquement pour beaucoup. Une situation qui pourrait se poursuivre jusqu'à fin février. La Confédération doit trancher mercredi prochain. Président de Gastro Jura, Maurice Pope, a réagi à maintes reprises sur nos ondes pour défendre et faire entendre le corps de métier qu'il représente. Mais quand on lui demande de trouver le positif à tirer de l'année dernière, il a aussi des choses à dire, Maurice Pope.
Ces 2 longues fermetures que nous avons eues ont pu nous permettre de rendre compte du rôle social qui est très important quand on a avec les établissements publics du Jura. Donc, puis c'est maintenant qu'on le ressent vraiment, quoi.
Pour vous, ces périodes de fermeture, elles ont montré la place des restaurateurs?
Oui, la place qu'on a dans le bien-être des gens, c'est clair. Si nos clients nous manquaient, on peut dire qu'on manquait à nos clients aussi.
Vous parlez du rôle social, du rôle humain des restaurants, des bars. C'est plutôt les tenanciers qui vous ont fait ressentir ça ou les clients?
C'est les clients. Les 2 rouvertures qu'on a pu l'occasion de refaire, c'est là qu'on a vraiment vu que le contact leur manquait. Ils étaient contents qu'on rouvre, ils arrivaient, ils étaient heureux de nous retrouver. Vraiment, on a senti aussi beaucoup de solidarité. Ça fait chaud au cœur, je dirais. C'est encourageant pour nous quand on a vu surtout ces derniers temps, hein, cette solidarité sur Facebook qu'il y a eu. Je trouve que c'est vraiment important, ça remotive tous les troupes. Nous, on a pu retravailler, on a bien retravaillé pendant toute la saison d'été. On a fait une belle saison, je pense, au Jura pour une grande partie des établissements, qui a permis de remettre un petit peu des sous de côté, je dirais, pour cette deuxième vague, quoi.
Maurice Pope qui répondait à Coraline Kempf. Une année sous le signe de la solidarité, c'est ce que demande l'Union syndicale suisse. L'USS a fait part de ses priorités pour 2021 ce matin dans un communiqué. Pour faire face aux difficultés financières liées à la crise sanitaire, elle annonce s'engager notamment pour un versement de 500 francs issus des réserves excédentaires des caisses maladie à chaque assuré, un meilleur financement du secteur de la santé publique et la prolongation de l'indemnisation chômage.
Vous écoutez RFJ, il est 12h25.
Sport.
Le HC Ajoie doit vaincre le leader pour rester invaincu dans la nouvelle année. Il dispute ce soir le choc au sommet du championnat de Swiss League. Les Jurassiens reçoivent Kloten à 20h à Porrentruy. Si les hockeyeurs alémaniques sont en tête du classement, c'est Ajoie qui possède le plus grand nombre de points engrangés par match. Malgré cela, Kloten reste favori selon le défenseur ajoulot Alain Birbaum.
On est peut-être les outsiders par rapport à eux parce qu'eux, il y a beaucoup d'attentes. Ils ont une grosse équipe, ils ont un gros budget. Il y a cette pression pour eux de monter. Tout le monde parle de ça. Enfin, je pense que la Ligue a un peu tout fait pour les favoriser à la promotion cette année. Donc, c'est les favoris. Et puis nous, c'est clair qu'on joue les troubles faits. Pour l'instant, on est premier au nombre de points par match. Mais la saison est encore longue. On n'a pas joué beaucoup de matchs pour l'instant. Et puis, on doit encore jouer les grosses équipes assez souvent, nous. Donc, voilà, on ne va pas s'enflammer. Mais on a l'intention de faire un gros match et puis de prendre la victoire en Kloten.
Il y a aussi un petit esprit de revanche sur le déplacement à Kloten qui s'était soldé par une lourde défaite au lendemain de la sortie de la première quarantaine.
C'est clair qu'on a un mauvais souvenir de ce dernier match. Après, sur les deux matchs qu'on a joué contre eux, je pense qu'on a gagné le plus important des deux, et c'était le match de coupe. Après le match où on a perdu 7-3, sauf erreur, ou 7-1 même, ouais. Ça s'est joué sur le dernier tiers, on ne retient pas vraiment le score au final, qu'on perde 3-1, 7-1. Au final, c'était une défaite, on a fait du bien aussi, on nous a réveillés, puis après on a enchaîné des victoires. Mais c'est sûr que là maintenant on est à la maison, on est chez nous, et puis on a l'intention de continuer notre série de victoires à la maison.
Alain Birbaum répondait à Mathieu Schaffner. Ajoie Kloten, le choc au sommet du championnat de Swiss League, c'est à vivre sur RFJ ce soir en direct dès 19h45. Ce sera en intégralité avec notre consultant, Michael Chetla.
12h27. La météo est ce jeudi, vous l'avez remarqué, de nombreux bancs de nuages bas jusque vers 1500 à 1700 mètres d'altitude, souvent tenaces, mais pouvant laisser passer quelques éclaircies cet après-midi selon Météo News. Quelques flocons ici et là, notamment dans les franches montagnes, et les températures restent fraîches. Pour demain, vendredi, des bancs de stratus étendus sur la région, se dissipant en partie en cours de journée et qui vont laisser la place à de belles éclaircies au pied du massif. Des nuages restant plus nombreux sur le nord du massif, les températures à nouveau assez froide. Et puis alors samedi, des bancs de stratus très étendus sur la région, ne se dissipant que très partiellement, et les températures seront à nouveau froides. Attention, il y aura de la bise pour samedi.